Nouveaux accords. L'émission des découvertes musicales à l'écoute des artistes locaux. Sur Studio Zef 91.1 et 91.7.
Accords, l'émission qui met à l'honneur des artistes émergents et locaux. Vous venez d'entendre You Heels, single du groupe Coma que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la sortie de leur album Anthropolis le 6 mars prochain. En studio avec moi, il y a Elliot, batteur.
Bonjour.
Et Pilou, bassiste.
Salut.
Il nous manque Léonard, guitariste.
Ouais.
Le groupe Coma a vu le jour en 2020, en plein Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce groupe en pleine pandémie et où est-ce qu'on trouve la motivation et l'inspiration dans des temps pareils?
Yes, alors donc Coma, effectivement, c'est né pendant la pandémie du Covid. Avec Léonard, on avait un autre projet avant qui s'appelait Cumbersome. Ce projet a pris fin. Et on s'est dit, là, de toute manière, on est en pleine pandémie, il ne va pas y avoir de concert avant un certain temps. Donc, on va faire des singles en studio, avec une volonté aussi de faire du clip à chaque fois, d'avoir de la vidéo. Et donc, à ce moment-là, c'était déjà prévu que Pilou nous rejoigne à la suite de cette pandémie, au moment où on pourrait reprendre les concerts. C'est juste d'un point de vue pratique, on a commencé juste Léonard et moi, c'était pour des questions géographiques, principalement, étant tous les deux de Poitiers, Châtellerault, par là, c'était plus simple de commencer à deux en studio et puis que Pilou nous rejoigne par la suite au moment des concerts.
L'idée, ça a toujours été quand même cette envie de... Le groupe, on le prend en dehors du studio, on va du live.
C'est
il y
avait
un vrai projet professionnel. C'était pas, voilà, on fait de la musique pendant la pandémie.
C'est ça, ouais, dès le début du confinement, Elliot, il m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressé par le projet. Je connaissais pas encore Léonard à ce moment-là, mais on était dans la même école de musique avec Elliot, et puis on avait déjà évoqué le fait de jouer ensemble tous les deux, et puis du coup c'était l'occasion parfaite, et c'était déjà prévu, ouais, qu'on fasse des concerts tous les trois une fois qu'on pourrait reprendre les concerts, quoi.
Et quand vous les avez rejoints, cette transformation du coup quand même d'un duo pendant le confinement après à trio sur le live, ça s'est déroulé comment ? Il y a eu beaucoup de changements au niveau de, forcément un peu de la dynamique, mais même l'écriture des textes, ce genre de choses.
Alors au début, du coup, moi j'ai appris à jouer les morceaux qui avaient été composés déjà, qui jusqu'à ce moment-là étaient joués à la basse par Léonard. Et après, ouais, on a rapidement commencé à composer des nouveaux morceaux, et là on a composé à trois, en amenant chacun nos idées. Donc oui, ça a un petit peu modifié la façon de faire, mais ça s'est bien passé, ça s'est fait naturellement.
Ouais, carrément. Et puis en fait même de base, quand on a commencé à deux avec Léonard, donc comme l'a dit Pilou, Léonard il faisait la basse en plus de faire la guitare, donc c'était une démarche vraiment de studio, mais il y avait très vite cette volonté de retranscrire ça en live plus tard, quoi, en gardant les mêmes compos pour nos premiers concerts, enfin voilà, que juste avec l'arrivée de Pilou en plus à la basse. Et puis très vite, effectivement, il y a eu une nécessité en fait de renouveler notre set, et puis de composer aussi avec Pilou. On est principalement un groupe de live, et puis c'est vrai qu'on aime ça, composer tous les trois ensemble. Enfin, on a besoin de cette dynamique de jeu live, quoi, pour composer. Et voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a une signification du coup derrière le nom du groupe Coma qui s'écrit donc K-O-M-A?
Ça, c'est une question difficile, ça. Il n'y a pas vraiment de signification, bien que on voulait un nom on voulait un nom à deux syllabes qui a une syllabe qui impacte un peu, une syllabe un peu plus douce. Donc le co, c'est pour l'impact, et le ma, c'est pour la douceur, avec ce petit tiré au milieu pour la dualité entre les deux, et ça caractérise un petit peu notre musique entre des moments forts, puissants, enfin là, et puis des moments plus doux, plus calmes.
C'est une petite boucle à boucler, quoi.
C'est ça.
Et après, pour la signification, chacun peut trouver ce qu'il veut.
Chacun d'entre vous a sa propre signification du nom.
Oui, ou n'en a pas, mais voilà.
Et puis même pour les autres, chacun trouve sa signification, pour vous qui nous écoutez.
Quand on fait des recherches sur le groupe, votre style, il est décrit comme étant un mélange de rock alternatif, de rock noise, de punk et de post-hardcore. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer, du coup, pour nos éditeurs, à quoi ça ressemble concrètement ?
Alors, en fait, notre style, effectivement, il est assez varié. Parce que déjà, on a tous les trois des influences assez variées, même si finalement, toutes ces influences gravitent quand même autour du rock au sens large. Mais déjà, le rock alternatif, quelque part, c'est un peu pour avoir la fourchette la plus large. Enfin, ça englobe un peu tout, quoi. C'est un terme un peu générique qui englobe beaucoup de choses. Et puis après, pour tout ce qui est noise, punk, post-hardcore, tout ça, là, c'est plus sur certaines facettes de ce qu'on compose et de ce qu'on joue, où effectivement, des fois, il va y avoir des sons de guitare et de basse très, très amples, très, très saturés. Enfin, voilà. Des fois, il va y avoir des patterns de batterie énergiques, enfin, voilà, qui peuvent faire penser un peu plus au punk. encore une fois, notre style au sens large, on va dire que c'est plutôt rock alternatif, mais si on doit préciser, on a cette tendance noise, cette tendance punk, cette tendance post-hardcore, quoi.
Ponctuellement, ouais, voilà, non. Ouais. Dans certains passages de certains morceaux, c'est pas tout le temps, mais ponctuellement, on retrouve un peu de tout ça, quoi.
Et le scream aussi contribue aussi à ce ressenti post-hardcore, quoi. C'est vrai que dans le rock alternatif, c'est quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins, et mettre le terme post-hardcore derrière permet aussi de poser un mot qui prévient qu'il y a du scream et il y a des passages saturés dans Coma, quoi.
Est-ce que le fait de mélanger du coup plusieurs styles, c'est une manière de refuser de mettre un peu une étiquette sur le groupe, sur ce que vous faites? Parce qu'en plus, on est quand même sur des styles où, historiquement, voilà, c'était des sons violents, un peu explosifs, mais toujours avec des textes contestataires, critiques de la société.
Alors, un petit peu. Après, c'est aussi, je pense, une question d'affinité et de goût. C'est qu'on a des influences variées, comme tu disais, et qu'on a envie de... Enfin, tout ça nous plaît, on a envie de retranscrire un peu tout ça. Et après, oui, sortir un petit peu des codes, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout que ça nous élargit nos possibilités pour la création. On est plus libre de faire ce qu'on a envie, même si ça sort un petit peu du cadre d'un style précis. On n'est pas du tout enfermé, quoi.
Ouais, et puis on fait ça naturellement, en fait. C'est notre manière de composer, nos influences, voilà, font que on compose de cette manière, que là sur tel morceau on va avoir envie de faire ce passage là très dense, très bourrin, et puis au contraire juste après on veut redescendre, on veut poser un cadre un peu plus calme, enfin là, puis bah toujours aussi au service de la voix. Effectivement, on a des textes qui sont assez fournis, assez critiques aussi, qui laissent à réfléchir, donc on essaie aussi avec l'instrumental que voilà, ce qu'on joue colle avec ce qu'on raconte, quoi.
Le fond est tout aussi important que la forme.
Ouais.
Dans plusieurs de vos morceaux, vous abordez les thèmes donc de l'anxiété, la pression sociale. Est-ce que à travers ces titres, c'est un peu une manière de voir la musique comme une thérapie, de pouvoir exprimer des choses personnelles?
Il y a un petit peu de ça, ouais. Alors c'est Léonard qui est pas là, qui écrit en grande majorité les textes, qu'il en parlerait mieux que nous, malheureusement il est pas là. Mais oui, il y a un petit peu de ça, et puis il y a un petit peu de dénonciation et d'analyse de la société aujourd'hui, et de se poser les questions de comment ça se passe. Et,
ouais, en fait, le dernier truc que tu as dit, là, se poser des questions, effectivement, il y a ce truc-là de questionnement de ce qu'est, allez, on va dire la société, mais même l'être humain, même, enfin là, tout ce qui nous entoure, de quoi on est fait, de quoi on est entouré, enfin là. Et juste, c'est plutôt des questionnements que, en fait, à aucun moment on a envie de donner leçon à qui que ce soit. Enfin, c'est vraiment pas, c'est pas comme ça du tout qu'on voit les choses. On voit vraiment ça comme un questionnement. Effectivement, il y a peut-être le côté. Thérapie, ouais, carrément, c'est peut-être, c'est un terme qui peut s'y prêter, ouais, carrément. Donc voilà. Mais une volonté de faire résonner en fait nos questionnements et les sujets de la manière dont on les amène. Voilà, on a une volonté de les faire résonner chez l'auditeur, quoi.
Et donc du coup, bah, vous venez de le dire, c'est Léonard qui écrit les textes. Bon, malheureusement, il n'est pas avec nous. Mais est-ce que quand même vous identifiez à chaque fois à ce qu'il écrit? Est-ce que c'est important quand vous choisissez les morceaux qui vont être produits?
Oui, alors en fait, on parle de ce qu'on veut que ça raconte, tous les trois. Et c'est lui qui met en forme, qui écrit dans le détail les textes, mais les sujets qu'on aborde et tout ça, on en parle à trois en amont. Ouais.
Et donc, processus de création collective, est-ce que vous commencez d'abord par les musiques, par les textes? Est-ce que ça dépend? Ça se passe comment?
En général, on commence par les musiques et assez vite dans le processus, on réfléchit à ce qu'on va raconter dessus. Et une fois que les musiques sont déjà bien avancées, on se concentre plus sur l'écriture des textes pour recoller avec tout ça.
Ouais, et puis à la suite des textes, voilà, on pose les voix dessus, et ça va nous redonner des idées de créa, de modification, enfin là sur l'instrumental, pour s'adapter à ce qui a été écrit et la manière dont on l'interprète à la voix, quoi.
Les textes, ils sont majoritairement en anglais, voire tous en anglais. Est-ce que c'est lié au style du coup de la musique, ou le post-rock, on connaît principalement des groupes anglophones, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est plus facile d'écrire en anglais qu'en français, peut-être aussi parfois, pour exprimer des choses?
Déjà, il faut savoir que Léonard, il est bilingue ou quasi-bilingue, je saurais pas dire vraiment le terme, mais en tout cas, il
maîtrise la langue.
Ouais, il se débrouille très bien en anglais, de manière vraiment littérale, quoi. Et je pense qu'il y a une question un peu de musicalité, c'est on préfère finalement chanter, escrimer et parler en anglais.
Ouais, et puis je pense qu'il a aussi un petit peu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, un petit peu plus de facilité à écrire en anglais, pour le moment en tout cas.
Qu'on vient de dire, vous abordez à chaque fois des thèmes où tout le monde peut un peu s'identifier. C'est important justement cette résonance face au public.
Ouais. Alors, bon, c'est sûr que tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, moi le premier d'ailleurs. Donc, avant que ces textes ils résonnent chez l'auditeur, il faut d'abord qu'ils soient compris. Ça c'est une chose, mais c'est sûr que on a cette volonté, ouais, que ces textes ils résonnent. Et d'ailleurs, par rapport, donc on en parlera un petit peu après, mais par rapport à nos deux singles qui sont sortis, n'hésitez pas, si vous regardez sur YouTube, il y a les textes, il y a le sous-titrage anglais et français, hein, si vous voulez comprendre ce qu'on dit.
Ça prend du temps, la réflexion des textes ?
Ouais, ça prend pas mal de temps. Ça nous prend du temps déjà d'en parler avant d'écrire. Et après, ouais, quand Léonard écrit, il y a plusieurs versions, on en reparle et on fait... Ça nous prend pas mal de temps.
Et les sujets, ils viennent assez facilement ?
En général, oui, on a quand même une idée globale assez forte. Sur un EP ou un album, on va avoir un thème principal, on va décliner, et après, dans le détail, on va rentrer un peu plus morceau par morceau. Mais oui, ça, pour l'instant, en tout cas, on a encore pas mal d'idées.
C'est le moment pour notre première pause musicale. On va écouter Enfit, single qui est présent sur votre nouvel album qui sort, on le rappelle, le 6 mars, et on va en parler juste après.
Mom,
vient d'écouter Enfit. C'est le premier titre de l'album Anthropolis que vous avez sorti. Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Pas particulièrement. Enfin, c'est un titre qu'on trouve qui résume bien l'ambiance globale de l'album. On retrouve un peu plein d'aspects qui vont se décliner dans d'autres morceaux. Au niveau du texte, c'est aussi quelque chose d'assez fort et qui donne un peu le ton de ce qu'on va retrouver par la suite.
Enfit, c'est un morceau politique qui met en avant la corruption de la société. Est-ce qu'en plus du coup de se connecter, on a dit un peu au niveau de l'émotion du public, est-ce que c'est important pour vous de faire écho au contexte sociopolitique actuel ?
Pas forcément en fait. C'est donc dans Enfit et même plus particulièrement dans Anthropolis, on place l'humain au centre et avec une notion de corruption, mais de corruption plus au sens de comportement en fait, des comportements corrompus, des comportements. L'idée c'est de se dire c'est ni bien ni mal. On a tous un fonctionnement qui est très complexe et parfois très néfaste.
Ok. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu plus d'Anthropolis, l'esprit de l'album et le nom, pareil, qu'est-ce qui se cache derrière le nom ?
Donc Anthropolis, alors le nom ça vient d'un jeu de mots entre l'anthropologie qui est l'étude des comportements humains et polis pour ville en grec. Et du coup ça raconte l'histoire de plusieurs personnages qui ont comme point commun de vivre dans la même ville et une ville qui est un peu en décadence et décadence dont tous les personnages sont acteurs à différents degrés, volontairement ou pas. Donc chaque morceau va se concentrer sur un ou plusieurs personnages et expliquer un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, par exemple, dans Enfit, on se penche sur le maire de la ville, qui est corrompu et qui couvre plein d'affaires et tout ça. Mais il va y avoir des morceaux où on va se pencher sur un travailleur, sur des jeunes qui sont un peu délinquants, un peu délaissés. Tout un tas une galerie de personnages variés.
C'est votre premier album. Avant, il y avait eu plusieurs EP. Et donc, du coup, là, vous venez d'expliquer, il y a vraiment toute une histoire derrière. C'est quelque chose dont vous travaillez dessus depuis longtemps.
Même au moment de l'EP Trancadis, il y avait déjà une sorte de concept et d'histoire, de fil conducteur, en fait, sur tout l'EP. Et avec Anthropolis, on a voulu refaire ça à taille album. En fait, quelque part, depuis que Trancadis est sorti, dans notre tête, il n'y en avait que pour Anthropolis, quoi.
C'est une histoire avec plusieurs personnages. Au niveau des inspirations, est-ce que vous êtes allé chercher des proches sur vous-même ? Est-ce que c'est créé fictif de A à Z ?
Je pense que c'est surtout fictif. Après, forcément, on s'inspire de choses de notre vécu ou de fiction, d'ailleurs. Mais non, il n'y a pas de personne visée particulièrement ou quoi que ce soit. C'est purement fictif et volontairement exagéré pour l'exercice de se poser les questions, justement. Si ça allait encore plus loin, comment ça pourrait dériver et voilà.
Et si on parle un petit peu des titres, ils sont tous formés du coup d'une lettre et d'un mot. Donc sur l'album, on peut retrouver Again, L Duty. Est-ce qu'il y a un message caché derrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose à décrypter ?
Peut-être.
Peut-être, sûrement.
On vous laisse décrypter.
C'est un format de titre qu'on avait déjà mis en place pour notre premier EP Trancadis et qu'on trouve chouette à la fois graphiquement et puis oui, aussi pour le sens potentiellement caché derrière.
Ça reste le petit mystère.
C'est ça.
Au niveau de la création, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous aviez d'abord joué en live les morceaux de votre EP Trancadis avant de les sortir en version finalisée. Est-ce que vous avez fait pareil pour cet album ?
Ouais, alors donc oui, effectivement, pour Trancadis, on jouait les morceaux de Trancadis en concert avant de les enregistrer et de les sortir. De la même manière pour Anthropolis, où alors pas tous, mais en grande partie, on les a joués en concert avant de les enregistrer. C'est une manière pour nous de les digérer bien ces morceaux et puis on veut que notre enregistrement il est ce côté live, cette énergie du live. Et donc pour nous, c'est nécessaire de faire ces morceaux en live et de voir aussi entre nous comment on assume ça en live et comment ça résonne aussi dans le public. Et ça nous aide pour après faire un enregistrement qui a cette énergie du live, quoi, cette sincérité du live, si je puis dire.
Il y a des changements du coup qui sont faits après.
Oui, ça arrive qu'il y ait des modifications. Justement.
La réaction du public est importante
par rapport à la réaction du public ou juste techniquement, on se rend compte qu'il y a des enchaînements qui sont compliqués ou qui marchent un peu moins bien. Et c'est en les jouant en live et en condition qu'on se rend compte de certaines choses des fois. Et après, on retourne en studio, en répétition, et puis on retravaille dessus pour affiner tout ça.
En fait, le fait de les jouer en live ne va pas faire changer radicalement la composition. En revanche, ça va beaucoup nous apporter sur l'arrangement et sur telle partie, est-ce qu'elle a la bonne durée, est-ce que les sons ils sont bien appropriés, tous les patterns, est-ce que tout est justifié quoi en fait. Le live, ouais, ça nous permet vraiment d'avoir ce recul sur tout ça au moment où on enregistre quoi.
C'est la partie que vous préférez dans le métier?
Ah, j'aime bien l'enregistrement.
Ouais,
moi.
Ouais, les deux, hein, vraiment.
Les deux, ouais.
Quand même, au final, super. L'enregistrement.
Ah, les deux, pareil, les deux, pareil.
C'est quand même des ambiances très différentes. Enfin, ça n'a strictement rien à voir.
Bah, en fait, étant donné que dans notre manière d'enregistrer, on enregistre live, mis à part les voix qui sont faites à part. Mais en tout cas, notre instru est faite live. On a ce feeling du live quand on enregistre. Et donc oui, effectivement, les concerts, c'est super. Et puis de faire ça devant un public. Enfin voilà, tout ça, je pense qu'on adore tous les trois faire ça, quoi. Et puis bouger aussi, bouger d'endroit. Enfin voilà, quoi. Mais le studio, c'est tout aussi intéressant. Il y a une démarche de... quelque part, on va un peu plus dans la précision, on va être un peu plus exigeant sur des micro-détails. Enfin, là où le live, de toute manière, c'est entre le moment où on monte et le moment où on descend de scène, de toute manière, c'est on fait notre concert tel qu'on l'a répété, tel qu'on le sent au moment même, mais il y a moins de travail en profondeur, quoi. C'est tout aussi intéressant pour deux aspects différents.
Et même au niveau de la dynamique, en studio, on enregistre nous-mêmes, donc on travaille un peu comme en concert tous les trois. Puis on s'entoure régulièrement d'amis à nous, donc en fait c'est pas non plus un moment complètement juste à trois. On a souvent pas mal de gens qui gravitent autour de nous et ça donne des moments aussi très chaleureux. Et
en plus du live, qui est important pour vous, il y a toute la partie visuelle avec les clips. Est-ce que cette partie, elle est indissociable de l'identité de Coma?
Ouais. En fait, depuis que le projet existe, il y a toujours de la vidéo qui accompagne les musiques, à l'exception de Blurry 1 et Blurry 2, où là, c'est vraiment uniquement de la musique sur visuel. Enfin là, mais on n'a pas de vidéo qui accompagne. Sinon,
uniquement instrumental aussi.
Et improvisé aussi, donc c'est vraiment... Enfin, Blurry 1 et Blurry 2 sont vraiment des cas à part, mais sinon tout le reste, il y a de la vidéo, y compris là pour l'enregistrement d'Anthropolis, où en fait, ce qu'on voit pour les singles Enfit et T-Fact qui sont sortis, il y a de la vidéo en contexte d'enregistrement, donc il y avait des cadreurs, et ces cadreurs, c'est comme l'a dit Pilou juste avant sur l'entourage qui est avec nous durant les sessions d'enregistrement, les cadreurs, il y avait à la fois des collègues, des amis quoi, donc c'est super cool de faire ça dans ce contexte.
Et vous réfléchissez beaucoup à comment vous allez mettre en scène vos clips, à l'histoire que vous racontez?
Ouais, jusqu'à maintenant on a toujours fait du clip, du vrai clip scénarisé. Là pour Anthropolis, il y a beaucoup de morceaux d'un coup, donc pour l'instant en tout cas on sait pas si on pourra faire du clip sur tous les morceaux, mais on avait quand même envie d'avoir cet aspect vidéo pour tous les morceaux, et donc on a filmé des prises de studio pendant toute la durée de l'enregistrement, et il y aura quoi qu'il arrive une vidéo pour tous les morceaux, clip ou pas, mais il y en aura toujours une.
Ok.
Par le passé, donc il y a eu le court-métrage sur Trancadis. Ce court-métrage, il a été scénarisé et réalisé par Dylan Mété, un collègue et ami vidéaste, réalisateur de clips, enfin voilà tout ça. Et donc c'était un moment en fait où, pour la petite histoire, je sortais d'école de cinéma, et donc on a monté toute une équipe avec des camarades de l'école de cinéma, et on a pu réaliser ce court-métrage. Et là, ouais, ce court-métrage, il y a eu un travail assez poussé sur tout ce qui est scénario, réalisation, enfin voilà. Et puis après, même tournage, post-production, enfin là, c'est un court-métrage qui nous a pris pas mal de temps, et qui, on est très content parce qu'il met bien en image ce que raconte Trancadis. Pour Anthropolis, en fait, au-delà du fait que c'est un album donc bien plus long et plus contraignant pour faire du clip scénarisé, il y a aussi cette volonté de jouer devant les caméras, enfin de de se montrer quelque part entre guillemets en jouant, en assumant notre musique et puis de manière en fait tout à fait sincère de quand on joue ses têtes, on a ses expressions de visage, enfin là on fonctionne comme ça quand on joue et puis on retranscrit ça sur Anthropolis.
Ça vous a pas fait bizarre du coup de vous voir jouer?
Non.
Ah moi ça me fait toujours un peu bizarre quand même.
Et vous y pensez directement au clip dès que vous êtes dans le processus de création de l'EP ou d'un morceau, ou ça vient après?
Souvent ça vient pas dès le début mais quand on commence à arriver à une version bien avancée, ouais, on commence déjà à réfléchir, à avoir des idées et puis à en parler entre nous, ouais.
C'est le premier album, qu'est-ce que vous avez un peu ressenti quand vous avez dit là voilà on va faire 11 titres, c'est un autre échelon? Il y a de la fierté, mais est-ce qu'il y avait aussi un peu de peur, de choses comme ça?
Alors on s'est pas dit de base qu'on allait faire 11 titres, on s'est dit qu'on voulait faire un album donc on a commencé notre processus de compo et finalement en fait au bout d'un moment on s'est dit que ces titres là c'était ce qui convenait pour l'album alors il y a pas, c'est pas forcément une peur, c'est plutôt quelque chose, enfin on est au pied d'une montagne quoi et on se dit cet album en fait il sera pas fini quand on aura fini de le composer, il sera pas fini quand on saura jouer les morceaux, il sera pas fini quand on l'aura enregistré, il sera fini au moment où il sera publié et que on aura eu le retour du public de tout ça, enfin qu'on l'aura fait vivre en live, enfin voilà, donc c'est du travail sur longue durée. C'est un investissement, c'est tout ça, mais c'est aussi hyper hyper passionnant et puis c'est enfin tous les trois on vit à fond dans Coma et puis ce travail d'album je pense pas qu'il nous a fait peur, en revanche c'est vrai que c'est des moments de taf intenses qui sont plaisant quand même, tout va bien.
Par rapport du coup au début du groupe en 2020 et cet album, il y a un grand changement entre les titres que vous produisez, entre le travail, votre manière de fonctionner. Il y a une évolution qui se voit ou pas du tout?
Moi, je trouve oui, à la fois dans les textes, dans la façon de composer, dans l'exigence qu'on a aussi, dans plein d'aspects techniques du matériel qu'on utilise, des sons qu'on cherche et tout ça.
Ouais, puis on se connaît mieux aussi.
Ouais, aussi. On réagit un peu plus à ce que les autres font. Là où au début, on était peut-être un petit peu plus frileux de faire des remarques sur certaines choses. Mais là, il n'y a plus de problème. On se dit les choses comme on les pense et puis après, on voit. Donc oui, je trouve qu'on a évolué. Ouais.
Mais vous le disiez, au début, vous connaissiez d'avant. C'était important de faire ce projet quand même avec des amis, des gens que vous connaissiez, ou vous auriez pu aller avec des inconnus et voilà, sur une rencontre, on crée un groupe?
Je pense qu'un groupe peut très bien se créer entre des inconnus. On l'a fait d'ailleurs avec nos projets respectifs par le passé. Là, il se trouve que avec Pilou, à ce moment-là, on parlait de faire de la musique ensemble. Léonard, on avait eu ce projet avant Coma, enfin là, et puis on voulait continuer de faire de la musique. Et là, en fait, ça s'est fait de manière très naturelle. Hein. On s'est dit allez, on a les icos qu'il faut, on est motivé, on y va quoi.
C'est sûr que c'est plus simple quand on s'entend bien.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Et vous avez déjà des idées pour de futurs projets?
Toujours. L'idée c'est de se renouveler, de continuer. Nous, l'expérience de cet album, ça nous a plu, ça nous a aussi enrichi quoi. Enfin, d'un point de vue mental, du travail, de tout ça, on en ressort plus fort quoi. On a envie de continuer, de se renouveler quoi, de proposer aussi d'autres choses à l'avenir quoi.
Et on a déjà commencé à travailler sur des nouvelles compositions, donc ça prendra du temps, mais il va y avoir des nouvelles choses, ouais.
Ok, c'est un travail qui n'a jamais de fin.
C'est ça.
C'est ça.
Pour finir l'émission, j'ai trois petites questions sur vos goûts musicaux. La première, ça va être le titre ou l'artiste qui a construit votre univers artistique.
Alors moi, c'est Linkin Park que j'ai découvert au collège et qui m'a un peu fait rentrer dans toute cette scène rock, metal. Avant, j'avais une image du metal un peu très très brutale et tout ça, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus riche et varié que ce que je pensais. Et donc c'est grâce à ce groupe-là que j'ai découvert les différentes choses qui existent dans ces styles-là.
C'est une vraie inspiration, même maintenant, pour jouer
Oui, je pense que de toute façon, j'ai beaucoup écouté toute leur discographie, donc je pense que consciemment ou inconsciemment, il y a des choses qui restent aussi dans ce que je joue. Voilà.
Moi, il y a deux albums. Je dirais que il y a le tout premier album que j'ai acheté avec mon argent et sans gosse, c'était l'album T'as vu de Fatal Bazooka. Donc je tiens quand même à en parler parce que peut-être que j'en serais pas là si j'avais pas acheté cet album mythique de Fatal Bazooka. Et sinon plus sérieusement, moi je dirais un album qui a été ultra inspirant pour ma manière de jouer de la batterie, ma manière de chanter. Enfin là c'est l'album Jane Doe de Converge, même si évidemment enfin il y a tellement de choses à écouter dans ce style-là au sens large. Enfin voilà, donc beaucoup d'influences quoi, évidemment, mais c'est vrai que cet album Jane Doe de Converge a bien résonné en moi quoi.
Quel est le dernier titre que vous avez ajouté à votre playlist personnelle?
Je crois que moi c'est Daimony de Igor, le premier morceau de leur dernier album.
Bon, je vais un peu tricher parce que je sais pas si c'est exactement le dernier titre ou le dernier album, enfin voilà, mais en tout cas un qui m'a marqué récemment, c'est l'album de Pain Magazine là, donc le groupe entre Birds in Row, Maelstrom, je sais plus, et Louisa, voilà.
Et aujourd'hui, c'est quoi vos inspirations? Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça que vous écoutez et vous dites un peu c'est ça qu'on veut faire?
Moi, j'écoute énormément la vague punk, post-hardcore, un peu actuelle, de type Cold Guns, Birds in Row, quoi, par exemple. Birds in Row, je viens de les citer juste avant avec Pain Magazine, mais c'est vrai que c'est un style qui me parle à fond, quoi. Et Cold Guns, pareil, quoi. Enfin, dès qu'ils sortent un album, à chaque fois, je suis scotché, donc c'est...
Moi, je crois pas qu'il y ait de groupe où je me dis, en les écoutant, c'est ça que je veux faire avec Coma. Mais dans énormément de choses, y a des parties ou des petits éléments où je me dis, ah, c'est super chouette, ça, c'est intéressant. Faudrait voir si on pourrait pas s'inspirer de ça pour intégrer des choses comme ça dans notre musique.
Ok. Et donc, dernière question, quel est votre titre préféré sur l'album et pourquoi?
Moi, j'aime beaucoup T-Faked. J'aime beaucoup la jouer parce que j'adore les parties de basse. Et ouais, j'aime bien l'énergie qu'elle dégage. Ce côté un peu plus punk et un peu plus rentre dedans, j'aime bien.
Donc, tu as dit T-Faked, je vais dire Enfit. C'est les deux qui sont sortis. Donc, voilà, sinon, au moment de la sortie d'album, écoutez tout l'album pour savoir quel titre vous plaît le plus, mais allez, je vais dire pour dire une musique qui n'est pas sortie, je vais dire Ogain, que j'aime beaucoup.
Il y a pas forcément de raison particulière.
Alors Enfit, j'aime bien son côté très speed, très il y a un truc limite pressant qui met un peu mal à l'aise, quoi, peut-être la première fois qu'on l'écoute, avec une fin aussi très saturée. Enfin voilà. Dans Ogain, je pense que j'aime bien, c'est en grande partie les échanges qu'on peut se faire entre nous dans les instruments et dans les voix. Voilà.
Okay.
Bon, là je tease un petit peu parce que c'est pas encore sorti, mais voilà.
Mais en tout cas, tout l'album est à écouter et tous les titres sont bien.
Évidemment.
Ça, on peut l'assurer.
On pense, du moins.
Et c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
Votre album Anthropolis, donc, il sort le 6 mars. Il sera disponible à l'achat en CD vinyle.
Oui.
Ouais. Il sera aussi disponible sur les plateformes.
Oui.
Est-ce qu'on a quelques dates de concerts à dévoiler?
Ouais, alors on est dans une période de booking, donc il y a certainement d'autres qui vont être programmés. Enfin là, mais sinon très prochainement, on va jouer à Lille au Sarrasin. Ensuite, Lille, ça va être le 1er mars. Ensuite, mi-avril, le 18, on va jouer à Rocapullo. On retourne jouer à Rocapullo, on y a joué l'année dernière. Donc c'est un petit festival qui se fait à Pullo, une petite ville entre Bayonne et Pau. C'était super sympa, une équipe au top. Enfin, là, donc on y retourne, on est bien content. Puis après, voilà, il y en a d'autres, fin avril et puis mi-mai, tout ça quoi.
Il y a plein de choses qui vont être annoncées.
Ouais.
Super. Quant à moi, l'émission est à retrouver en podcast sur le site de Studio Zef. Merci encore de votre venue. On va se quitter en musique du coup avec T-Faked. Et moi, je vous dis bonne journée sur les ondes de Zef.